Je lui rappelle que notre
invité à introduire l'exposé d'aujourd'hui. Comme si une introduction était nécessaire, ai-je pensé. Et puis, en lisant et relisant les pages de ces merveilleux pamphlets, dont notre ami Antonio Andreoli a si bien parlé dans le bulletin de la société, l'envie m'a pris de prolonger un dialogue intérieur en le faisant devant vous et en présence de celui qui l'a suscité. Les forces de toucher ou la jouissance du dit montrent à l'évidence combien l'homme et les psychanalystes Olivier Plourvin sont inextricables. Il a écrit son livre sans jamais quitter son fauteuil. Et c'est de l'intérieur de cette expérience qu'il nous parle. Et à cet intérieur qu'il nous invite en mettant en pièce toute théorie générale, fût-elle métapsychologique. Le livre porte les sceaux de l'éthique de son auteur, Olivier Plourvin, et pour la vie contre la mort, pour la jouissance et contre le renoncement, pour le plaisir du dit et contre l'exercice d'un pouvoir. Le dire devient acte de passage contre les passages à l'acte. Et lorsque ces principes moraux, il les applique à notre culture psychanalytique, les conséquences sont étonnantes, troublantes, voire scandaleuses, et forcent la construction d'une théorie métapsychanalytique. Notre sorcière en perd son balai. Olivier Flournoy nous montre en filigrane à quel point elle est un excellent instrument de compréhension de l'existence humaine à une exception près, l'expérience psychanalytique. Pourtant, dans cet effort indispensable de rendre compte de ce qui se passe entre un analysé et un analyste, la théorie des pulsions paraît appropriée. Lors de la rencontre entre deux êtres humains, il se produit quelque chose qui, partant de l'un, va vers l'autre et qui conduit à l'investissement, au désir et à la satisfaction du désir. Et si ce n'est pas le cas, à la mise en place des procédures alternatives. Voilà en substance ce que Freud nous dit et qu'il est aisé d'imaginer et il est aisé d'imaginer qu'il nous parle depuis son fauteuil et qu'il théorise les avatars de la relation psychanalytique. Nous pouvons penser que la source pulsionnelle, qui se constitue comme résultat de l'effection de la complétude narcissique, il aurait pu la nommer malentendu et mécontentement, s'il avait eu l'occasion de lire Olivier Flournoy. De cette excitation de la zone érogène, il va s'en suivre une exigence de travail imposée à l'appareil psychique. C'est la poussée pulsionnelle qui comporte une augmentation de la tension, de la charge énergétique. Freud met l'accent tout autant sur l'aspect économique de la poussée que sur le fait qu'elle donne l'idée d'une trajectoire qui pourrait aller du divan au fauteuil, par exemple. Mais ce fauteuil, Freud le quitte pour regarder le vaste monde à ces moments de sa théorisation. Du temps de l'esquisse, le but de la pulsion, la satisfaction, donc, doit s'accorder avec le principe d'inertie et ramener l'attention à zéro, à l'inanimé. Les exigences de la vie, comme il dit, l'amènent à relativiser sa proposition, introduisant l'idée fermérienne de constance. Il s'agit d'une fonction secondaire, d'un second choice, comme disent les Anglais, mais qui laisse une marge de survie à l'analyste si on en fait l'objet de la pulsion. La deuxième théorie propose une combinatoire différente, mais dans laquelle principe de plaisir et pulsion de mort unissent leurs efforts pour satisfaire au principe du nirvana. Que ce soit dans la première ou dans la deuxième théorie, la seule alternative à une satisfaction pulsionnelle qui se confond avec une mort qui importe aussi bien l'objet que le sujet, est la renonciation à l'objet, propre à la sublimation et au processus secondaire, conduit par les principes des réalités. Ceci impose un délai à la satisfaction dont il tire profit pour faire un tour de passe-passe, un travail de substitution de l'objet au même temps que l'instauration d'une pensée de renonciation. L'analyste est un substitut de l'objet dont il faut de toute manière se dessaisir en échange d'une triste clairvoyance et lucidité. Freud peut encore théoriser l'expérience analytique à partir du concept de pulsion libidinale à but inhibé, qui qu'il décrit dans les mois et les saints, et dont il donne la définition suivante dans la 32e conférence. Mouvement pulsionnel venant des sources bien connues de nous, ayant un but non ambigu, mais qui subissent un arrêt sur leur chemin vers la satisfaction, de sorte qu'il n'en résulte qu'un investissement d'objets durables et une inclination permanente. L'objet n'est pas escamoté, il est même investi, mais à condition de renoncer à la satisfaction du désir. L'analyse n'est pas le lieu de la jouissance, et la règle de l'abstinence s'élargit à l'abstinence du plaisir. Olivier Fournois, je le disais plus haut, n'est pas du côté de la mort et refuse de considérer que l'expérience analytique soit théorisée comme une renonciation à l'objet et ou au plaisir, à la jouissance. Les dispositifs théoriques qu'il met en place respectent en apparence l'ordonnance de la pulsion freudienne. Mais l'analyste n'est plus l'objet de la pulsion, de son analysé. Il en est le sujet. À mon sens, il y a là une différence radicale fondatrice de la métapsychanalyse. Du coup, le but n'est pas celui de la satisfaction pulsionnelle dévastatrice ou la transformation du malentendu en bien entendu, mais la jouissance du dit. Et pour cela, il faudra s'entendre en donnant deux analyses. Les deux sujets font une expérience intersubjective. L'analyste d'Olivier Flournoy, ou plutôt Olivier Flournoy analyste, est un sujet de ses propres pulsions, mais aussi de celles de son analysé qui viennent le hanter, le troubler et qui l'engage. Voyons-le alors. Un analysé dit « il pleut » et l'analyste pense à l'absurdité de ce « il » qui précède « pleut », alors que la pluie est féminine en français. C'est « elle pleut », l'objet manquant de cet analyste analysant, c'est que son analysé ne lui donne pas. Et c'est par rapport à ce manque qu'il pourrait s'imaginer analyste allemand, dont « le pluie » au masculin correspond à ce « il pleut » que son analyste lui donne. Dans ces conditions, l'il pleut n'est pas seulement neutre et délicieusement chinois, c'est le résultat de l'inversion de il. C'est donc homosexuel, c'est-à-dire du même sexe que l'analyste. C'est cela un analyste sujet de la pulsion, ce qui va exiger qu'il devienne analysant tout autant que son analyste. Mais, me semble-t-il, cette manière de dire attribue provisoirement un sexe à l'analyste et à l'analysé, qui ne peuvent plus être ni une fille ni une mère l'un pour l'autre. Nous sommes là en présence d'un dit qui n'est pas seulement libidinal, mais qui confère un caractère sexué au protagoniste de ses désirs sexuels, pour peu qu'il soit partagé, c'est-à-dire interdit. C'est ici que j'interroge la métapsychanalyse d'Olivier Flournoy, pour qui, je cite, il est impérieux que le psychique soit sexuel sans être d'un sexe ou de l'autre. Je comprends son souci si ces sexes devaient renvoyer une fois encore au corps et à la métapsychologie. Or, c'est là que vient, point nommé, l'interdiction, qui dit aussi la défense du toucher. Elle nous prévient contre le danger de nous prendre pour l'objet sexué de notre analysé, ce qui par ailleurs serait conforme à la métapsychologie. Il me semble qu'en métapsychanalyse, les sexués concernent toujours l'objet manquant. Elle pleut, manque, et suscite le désir de l'analysé et de l'analyste, qui ne pourrait que médiocrement se contenter de l'y pleut. L'interdit est à la fois une non-réalisation de la débâcle pulsionnelle, de l'inceste, le parricide et la castration, et une préservation de la jouissance. La jouissance du dit. Remarquez qu'Olivier Flournoy n'écrit pas la jouissance du dire. Il précise même dire le passé. Ce n'est pas dire le plaisir à s'en dégager, c'est l'éprouver. Dire à l'autre, dire pour l'autre, dire avec l'autre, et réciproquement. La jouissance du dit veut bien dire que le dit jouit. Ce dit qui n'est pas seulement une représentation, mais qui n'est pas seulement satisfaction pulsionnelle non plus, doit alors être une mise en action simultanée et contradictoire d'un principe de décharge et d'un principe de liaison. Si la liaison permet de représenter et qu'on jouit de cela, il faudra donc admettre que le dire comporte une part de décharge à niveau de la conscience, au même temps qu'une liaison à niveau du préconscient. Cette décharge psychique, dans les dits, trouve sa métaphore corporelle au sein des particularités motrices et sensorielles de la voix qui énonce les sens, tout en jouissant. Mais trêve de bavardage. Olivier Fournoy va nous dire et que la fête commence.
Eh bien, merci Madame la Présidente d'avoir organisé cet après-midi. Merci à Ignacio de ce travail auquel je vais réfléchir, qui m'a beaucoup intéressé, même s'il y a quelques résonances que j'ai comprises dedans. Et puis je voulais aussi remercier Antonio, que je vois apparaître là-bas, qui a aussi fait un travail qui m'a été précieux, ainsi que tous mes autres amis qui m'ont aidé dans mes réflexions concernant la psychanalyse. Je ne vais pas me mettre à vous parler de mon livre, puisque je pense qu'il est plus simple que ceux qui ont envie de voir ce qu'il y a dedans le lisent. Mais par contre, je vais vous parler, si vous voulez bien, de la question que pose ce livre. Il n'y a qu'une seule question que je me suis posée depuis l'âge de 5 ans, c'est qu'est-ce que la psychanalyse ? Qu'est-ce que la psychanalyse ? C'est vraiment une question qui me trouble encore aujourd'hui. Et je dois dire que nos amis qui nous veulent toujours du bien ne nous la posent jamais parce qu'ils savent tous ce que c'est que la psychanalyse. Par contre, ils nous diront, mais la psychanalyse, est-ce que c'est encore à la mode ? Ou bien ils nous diront, est-ce qu'on n'a jamais guéri quelqu'un avec la psychanalyse ? Ça, ce sont les questions importantes auxquelles vous êtes habitués à répondre. Mais qu'est-ce que la psychanalyse ? C'est là, je crois, une question qu'on se pose tous, mais qu'on ne se pose pas assez souvent. Et je vous propose de faire une petite promenade avec moi, si vous voulez bien, à travers les concepts. Un survol, je ne vais pas faire quelque chose de très élaboré, un survol de certains concepts pour essayer de voir plus clair par rapport à cette question qui me paraît fondamentale. Alors, pour commencer, j'aimerais revenir avec vous un peu en arrière, parce qu'il se trouve que le temps a passé depuis le début du siècle, depuis Freud, et que beaucoup de choses se sont passées depuis lors. Mais j'aimerais donc vous dire quelques mots, de l'histoire des sciences ou de l'histoire de la psychanalyse pour commencer. Au XVIIe siècle, avec Newton et avec d'autres savants de l'époque, il y a eu un formidable démarrage pour les sciences fondamentales. La physique et la chimie notamment, la mécanique avec Newton. Donc je vous rappelle au passage que Newton croyait en Dieu, que c'était important. Et ce formidable démarrage s'est accompagné d'une autre partie des sciences, qui était le développement des sciences algébriques, mathématiques et géométriques, comme à l'époque, comme moyen pour que les sciences fondamentales, la physique et la chimie, puissent se développer. Ces moyens, à l'époque, au XVIIe, on peut savoir qu'en France, je vous rappelle au passage que les deux grands hommes qui s'occupaient de cette partie-là de la science étaient d'une part Descartes, qui a effectivement écrit le discours de la méthode, c'était donc la méthode qui l'intéressait, et qui était occupé surtout d'algèbre, de choses tout à fait abstraites, et à peu près à la même époque de Pascal, qui lui était beaucoup plus concret, beaucoup plus expérimental, et a développé non seulement les baromètres, mais aussi la géométrie analytique, la géométrie euclidienne et la géométrie dans l'espace. Il y avait à ce moment-là un espace absolument considérable dans ce que pouvaient devenir les sciences, et à juste titre. et cet espoir a continué jusqu'à nous. Et à l'époque de Freud, la physique a fait un nouveau bond absolument extraordinaire avec tous les physiciens qui ont bercé notre enfance et avant, à commencer par Einstein. Et c'est à cette époque-là qu'on va retrouver Freud qui va nous dire à plusieurs reprises que son espoir serait que quand même la physique, la chimie, la biochimie puissent résoudre les maux d'humanité et notamment les défectuosités du cerveau et qu'en attendant, on pourrait presque dire faute de mieux, eh bien on s'occupera de psychanalyse. Je crois que c'est important de voir cet espoir concentré sur la physique et la chimie que Freud a gardé, en tout cas tout au long de sa vie. Et alors, pour parler un petit peu de ce qui se passait au début du siècle, j'aimerais reprendre certains concepts en me basant sur une phrase. Je ne vais pas prendre « il pleut » puisque Ignacio nous a déjà dit tout ce qu'on pouvait dire sur « il pleut », mais une autre phrase toute simple du même genre. Je pense à mon petit déjeuner. Ce matin, j'ai bu une tasse de thé. Je vais m'en tenir à cette phrase-là, par exemple. Quand en 1900, on dit une phrase pareille, que se passe-t-il? Eh bien, on s'aperçoit que la physique va réussir à transmettre ce que je vous dis comme phrase, à étudier et à donner une définition physique grâce à l'acoustique d'ondes sonores qui vont aller exciter votre tympan. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et qui est admis par toutes les sciences. Et puis à partir de cette onde sonore, le tympan va servir de relais, et le relais va être repris par les neurosciences, par la physiologie, la biochimie, la chimie organique, et l'hypothèse va être qu'à partir du tympan, il n'y a plus d'onde sonore, mais il y a une onde électrique qui irait secouer ou exciter la zone cérébrale adéquate, le cortex adéquat, où cette onde électrique va se transformer en bruit. Et autrement dit, la phrase que je vous ai dite va apparaître à votre niveau cortical comme un bruit. Et à ce moment-là, eh bien, en 1900, les sciences s'arrêtaient net à cet endroit-là. Il n'y avait pas de possibilité de passer du bruit à la signification. Parce qu'il est clair qu'en vous disant la phrase, il n'y a pas seulement du bruit, mais il y a aussi une signification. Et qui est-ce qui prenait le relais? Eh bien, c'était la spéculation philosophique. Et la spéculation philosophique dit de manière très, très résumée que la signification, le sens, c'est quelque chose de psychique, c'est un fait psychique. Et comment est-ce qu'elle définit ce fait psychique? C'est avec un terme bien connu de nous tous et de Nikos notamment, c'est que le fait psychique, c'est l'objet de la représentation dont le sujet est l'esprit. Et voilà ce que la philosophie tente de dire à propos du sens qu'on va créer au niveau de l'esprit, c'est-à-dire de ce sens spécifique concernant la tasse de thé. Et alors ce hiatus tout à fait important entre les sciences et la psychanalyse et la philosophie est quelque chose de tout à fait intolérable pour les scientifiques. Alors les scientifiques vont s'efforcer de le combler et on va voir apparaître au début du siècle, à la fin du siècle dernier, la psychologie. Et comme son nom l'indique, la psychologie c'est le psychisme qui est repris par la logique. La logique c'est la logique cartésienne. C'est la méthode, c'est l'algèbre, c'est les mathématiques. Et la psychologie va se développer dans le sens de psychologie expérimentale en essayant de trouver ce que peut bien signifier cette représentation philosophique au point de vue scientifique. Et alors, la psychologie va employer des méthodes expérimentales qui sont à la mode, notamment les méthodes mécaniques, et avant tout le chronomètre. Le chronomètre va être très important Et par exemple, les psychologues pourront étudier à travers des associations le temps que prend ma phrase pour arriver à votre tympan, ça se fait difficile, c'est la vitesse du son. Le temps qui se passe de la vitesse depuis le tympan jusqu'au cortex, ça serait la vitesse de l'électricité. Et puis, le retour, la formation d'un sens, le retour dans le corps jusqu'à l'émission par les cordes vocales de la réponse. Alors si je dis thé, eh bien vous allez répondre café, et ça va prendre un certain temps, vous allez répondre n'importe quoi d'autre, et ce temps va pouvoir être chronométré, on va pouvoir faire des protocoles qui vont être de plus en plus compliqués, de plus en plus savants, pour essayer de découvrir quelque chose par rapport à ce mystérieux sens, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psychologique. Eh bien, Freud n'a pas du tout pris cette voie-là. Chose curieuse, Freud a décidé de rechercher aussi, absolument avec le même but, c'est-à-dire éviter le hiatus entre la science et la philosophie. Freud met à côté de l'électricité qui va aller de votre tympan au cortex, il invente une autre sorte d'énergie parallèle, qui va être ce qu'il appelle l'énergie libidinale. L'énergie libidinale, ou l'énergie sexuelle, qui n'a rien à voir avec la première énergie, et qui est un concept tout à fait étrange. Je vous rappelle qu'en 1900, même l'énergie était un concept curieux. On ne savait pas très bien ce que c'était, on voit les ondes sonores, mais on n'a pas l'idée que les ondes sonores transportent l'énergie. C'est un concept qui a complètement changé ces dernières années. Les enfants des écoles savent ce que c'est que l'énergie, mais quand j'étais à l'école, moi, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, l'énergie. Et alors, Freud invente, théorise une énergie parallèle à l'énergie électrique, une autre énergie qui va aussi du tympan à quelque chose de l'ordre de l'esprit et qui est une énergie qui transporterait à ce moment-là du sens. Et alors, on voit tout de suite qu'à partir du tympan, il s'agit d'une énergie qui ne sera pas seulement psychique, alors qu'elle devrait l'être, mais qui est psychosomatique. Et pourtant, Freud a appelé cette énergie la libido, la libido sexuelle, il l'ancre donc dans la sexualité, donc elle est psychosomatique, mais il va en faire une théorie, qui est la théorie métapsychologique, oui, et qui serait, elle, en principe, totalement psychique. Et cette théorie métapsychologique, il va la développer essentiellement sous l'angle des pulsions. Les pulsions, c'est le concept de l'énergie métapsychologique. Un des concepts, mais un concept fondamental. Et je voudrais à ce moment-là reprendre un peu la théorie des pulsions pour comprendre ce passage de cette nouvelle énergie parallèle à l'énergie qui intéresse les psychologues, donc une énergie typiquement psychanalytique. Et vous savez que les pulsions sont décrites sous quatre angles fondamentaux. Freud décrit la source, la poussée, l'objet et le but. Alors tout de suite, on voit que la source de la pulsion est ancrée dans le corps. Donc c'est une source psychosomatique. C'est pas une source comme le voulait la... Je cherchais à décrire la spéculation philosophique. Il ancre la source dans le corps, et en l'occurrence, dans ce que j'ai dit, eh bien, il ancre la source dans le tympan, et voilà que le tympan devient une zone érogène. Et alors que le tympan est transmetteur et relais de l'énergie auditive en énergie électrique, il se trouve aussi un relais, mais en zone, en énergie libidinale. Cette énergie libidinale est ancrée dans le corps, dans l'exemple ici, dans le tympan. Et puis la poussée, eh bien, Freud nous dit que cette poussée, c'est une poussée énergétique, une excitation qui est dérangeante, qui est déplaisante, et dont on n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser. Et en cette excitation étant déplaisante, le but de la pulsion sera de la maîtriser, de la calmer, ou éventuellement de la décharger pour qu'il n'y ait plus ce déplaisant de l'excitation. Et pour pouvoir décharger cette excitation, Alors, il faut ajouter que le psychisme a besoin de trouver un objet qui lui convienne pour décharger cette excitation. En principe, l'objet serait un objet intrapsychique. Quoique la métapsychanalyse est intrapsychique, mais néanmoins elle est déjà psychosomatique puisqu'elle est déjà entrée dans le corps. Mais en l'occurrence, on peut avoir un objet intrapsychique, c'est-à-dire que si je vous dis que j'ai bu du thé et que vous associez café, parce que n'importe quoi d'autre, à ce moment-là, vous avez un objet, et une fois que vous vous êtes représenté cet objet, en l'occurrence café, et bien la tension déplaisante que j'ai provoquée en vous disant thé va chuter. Vous avez trouvé l'objet, un objet qui devient objet but. Et le problème est résolu. On n'a pas besoin d'aller plus loin, ou on continue, bien entendu, mais l'excitation déplaisante disparaît une fois que vous avez trouvé une réponse adéquate. Alors, le problème délicat, c'est que, ayant ancré l'excitation dans le corps, la psychosomatique au début, c'est que l'objet peut aussi être un objet corporel. Inutile d'insister, il n'y a qu'à penser au pouce de l'enfant qui suce son pouce, voilà un objet corporel. Et puis, même si Freud est observateur et décrit la psychologie, il ne peut pas échapper au fait que l'objet peut être extra-corporel, peut être quelqu'un d'autre. Dans la mesure où la libido est sexuelle, l'énergie sexuelle, il ne peut pas échapper au fait que l'énergie sexuelle peut aussi être déplaisante, comme je dis, et chercher un objet extérieur, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui viendra nous servir pour abaisser notre excitation et trouver en même temps du plaisir. Je pense que ça, c'est clair pour tout le monde, mais ce qui se passe, c'est qu'en retrouvant cet objet, il retrouve le problème de la transmission de la signification et du sens d'une personne à une autre, qui est justement celle que les sciences physiques n'arrivent pas à expliquer, et celle que la psychologie appelle de la parapsychologie. Et alors là, à ce niveau-là, on voit que Freud ne fait pas de parapsychologie, il fait de la métapsychologie, mais il est conscient du problème, il voit bien que c'est... Il retombe de nouveau sur ce problème de transmission de sens, et c'est là qu'intervient la sorcière, ou le Deus ex machina, il y a quelque chose qui le dépasse, qui nous dépasse, qui n'est pas celui ou résolu par les sciences, et il invoque à ce moment-là la sorcière, alors que sa théorie du fonctionnement et de l'appareil psychique devait être vraiment une théorie scientifique par excellence. Alors, on peut imaginer sommairement ce que serait la sorcière dans le contexte de ce que je viens de vous dire. Quand je vous envoie une signification comme quoi j'ai buté ce matin, eh bien, je vous envoie, selon les sciences de l'époque, tout un système d'ondes qu'on peut comparer, comme a dit Yasuo, à un balai, et puis un cheval sur ce balai sera la signification, c'est-à-dire la sorcière, c'est-à-dire le sens qu'on ne peut pas expliquer de manière satisfaisante au point de vue scientifique. Alors, à partir de là, eh bien, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, et je voudrais dire quelques mots qui ont changé un peu cette optique pour moi, en tout cas. C'est ce qui s'est passé depuis 1960, où il y a eu un développement absolument formidable des sciences qui étaient les moyens, c'est-à-dire de l'algèbre, de la géométrie, des mathématiques, qui sont venues des sciences en soi, qui ont perdu le fait d'être des sciences destinées à découvrir, à aider les physiciens et les chimistes à découvrir les sciences fondamentales, mais se sont transformées en sciences en soi, et notamment, ce sont toutes les théories de l'informatique qui vous sont tout à fait familières, mais qui pour moi, évidemment, représentent un saut absolument incroyable à partir de tout ce qui était avant 1960, où les théories de l'informatique n'existaient pas. Alors, ces théories de l'informatique ont ceci d'intéressant, c'est qu'elles répondent en partie à la question de la transmission du sens, c'est-à-dire qu'elles réussissent à le transmettre, mais non pas à en trouver le fondement. Et elles réussissent à le transmettre grâce à ce développement fantastique des ordinateurs et des logiciels, où effectivement, grâce au logiciel, on peut réduire une information, donc une information de sens, la coder, la stocker, la reproduire, la transmettre, et finalement la réduire en un système numérique, un système algébrique, un plus et un moins, qui vont réduire et transmettre des significations parfois extrêmement compliquées. Et alors, c'est une des questions qui pour moi me rend tout à fait perplexe, c'est que c'est le problème de l'illusion, c'est-à-dire que c'est l'informatique réussit à nous transmettre quelque chose qui pour moi était quelque chose de spécifiquement humain ou de spécifiquement, on pourrait dire, existentiel ou vital. C'est-à-dire que je me disais, mais on n'arrive pas à transmettre la signification au point de vue scientifique, ce sont les sciences de la nature, et puis la signification est quelque chose de propre à l'homme. Et voilà qu'avec l'informatique, on transporte des significations qui sont encore plus humaines que ce qu'on est soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, maintenant, vous pourriez avoir derrière moi un écran où j'apparaîtrais, plus grand que nature, en train de vous faire le même discours, de manière beaucoup plus convaincante, qui vous émouvrait beaucoup plus, qui pourrait vous faire réagir émotionnellement de manière beaucoup plus importante que je ne le suis moi. Autrement dit, il y a un facteur humain, que je croyais être humain, qui va apparaître dans l'illusion de l'informatique et qui va être absolument efficace. Alors là, il y a quelque chose de très bizarre, de très curieux, dans la désacralisation de ce que je pensais être humain en psychanalyse. Et alors, voyons. Chose qui a dû m'interrompre là, au passage.
J'ai été eu par mon double.
Oui. Alors, ce que je voulais dire encore à propos de mon double et des logiciels, je donnerai des exemples de ça que vous connaissez tous, c'est que ce qui m'a intéressé, c'est la définition du média. Le média a aussi quelque chose de très curieux par rapport à ce que l'on fait. Le média, il y a trois définitions pour le média. D'abord, le média, c'est un support de diffusion. C'est que le média, c'est des instruments dans le logiciel qui servent d'intermédiaire. C'est un support de diffusion de l'information. Alors moi, je suis un support de diffusion de l'information. J'ai un corps, j'ai un organisme vocal qui sont les supports de diffusion de l'information. Et puis le média, c'est aussi un moyen de communication, un moyen d'informer. Et en effet, je suis un moyen d'informer. J'ai la possibilité de vous informer que j'ai bu une tasse de thé ce matin. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant en fait, c'est que le média, c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire qui transmet une information, qui vient d'ailleurs, à quelqu'un. Et je suis aussi un intermédiaire. C'est là qu'on retrouve quelque chose de la théorie de l'invention et de la psychanalyse. Je suis un intermédiaire parce que en vous disant que j'ai bu une tasse de thé, je suis celui qui a bu une tasse de thé qui vous dit, mais je suis quelqu'un d'autre qui vous dit quelque chose de tout à fait différent. Et en effet, je ne vous dis pas que j'ai bu une tasse de thé, je vous dis ce que je pense de la question de la psychanalyse à travers ça. Donc j'ai un tout autre message, et ce message-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais le découvrir peu à peu, au fur et à mesure que je vous parle. Et alors voilà la grande différence entre les médias et moi, si vous voulez, et nous, les êtres vivants, c'est que les médias, on leur met déjà ce qu'ils vont découvrir dans le ventre. En les codant, ils savent déjà ce qui va sortir. Mais tout le monde ne le sait pas, parce qu'on se fait avoir par les médias. Bien sûr, il y a le message indirect auquel on est pris, en plus du message direct. Mais en psychanalyse, Je ne sais pas ce qui va advenir de ce que je suis en train de vous dire. Et alors, ceci me fait arriver à deux conclusions. C'est que grâce à la théorie des médias, je n'ai plus besoin de me heurter à la proposition du « qu'est-ce que c'est que le sens ?» Parce que pour l'informatique, le sens, on l'accepte. On s'occupe de la question « comment ça marche ?» On ne va pas se demander ce que c'est. Alors je peux accepter, à partir de là, que je vous transmets effectivement du sens, sans avoir recours à des problèmes philosophiques importants. Il y a une espèce de connaissance qui va de soi, mais qui n'allait pas du tout de soi il y a 50 ans. Donc j'accepte que je vous transmets quelque chose, mais en même temps, j'accepte qu'il y a quelque chose d'intersubjectif entre nous. C'est-à-dire que je ne connais pas ce que je vais vous envoyer, et vous ne savez pas encore ce que je vous envoie, et je ne sais pas non plus ce que vous allez me répondre, car vous allez me répondre aussi sur un plan de signification, et non pas seulement des ondes sonores qui vont venir me faire avoir trouver une signification intra-psychique. Votre signification va m'influencer. Il y a donc un inter-psychique qui apparaît ici, qui est quelque chose de nouveau, qui me paraît pour moi fondamental dans mon idée de la métapsychanalyse, alors qu'on devait avoir un intra-psychique avec la métapsychologie. Et puis, seconde idée, c'est qu'à ce moment-là, la psychanalyse est bien une science pour moi, mais c'est une science historique. Ça n'est plus une science fondamentale. Je ne m'attends plus à ce que la chimie et la physique résolvent les problèmes. Je pense que la psychanalyse est une science historique, avec cette particularité que c'est une science en devenir, comme l'histoire, que l'histoire qu'on vit, on ne sait pas ce qu'on vit, on va la décrire, la découvrir après coup, et que c'est après coup qui va toujours revenir formuler notre passé et redonner à notre passé quelque chose, une dimension qui nous échappait jusqu'à maintenant. Et ceci me paraît fondamental. Pourquoi ? Parce que je pense que ça nous fait complètement échapper au déterminisme rigoureux, comme on disait il y a 50 ans, c'était tout à fait important d'ajouter le rigoureux déterminisme. Ça nous fait échapper au déterminisme parce que ce que je vous dis va faire sur vous quelque chose qui n'est pas déterminé, et vous, ce que vous allez me répondre, je vais être surpris, et ça va être aussi de l'ordre de l'indéterminé. Et ce en quoi c'est important, c'est qu'on a là l'idée qu'on peut transformer notre passé, qu'on n'est plus les victimes de notre passé, qu'on n'est plus justement rigoureusement déterminé par ce qui s'est passé dans notre vie, ce que bien sûr tous nos patients vont nous dire. Je suis déterminé par mon enfance, par ce qui s'est passé, c'est pour ça que je suis névrosé, il n'y a rien à faire, et la répétition va être indéfinie, on ne va jamais s'en sortir d'affaire, et je pense que là, on peut échapper à la répétition, parce que justement, avec les sciences historiques en devenir, on peut sortir de ce déterminisme, physico-chimique des sciences exactes. Qui du reste contredit actuellement par les physiciens et les chimistes eux-mêmes. Alors là, je vois un espoir dans une métapsychanalyse que, comme disait Ignacio, j'ai peine à voir dans la métapsychologie. Alors voilà pour ce bref survol de la psychanalyse et l'histoire des sciences telle que finalement je l'ai vécue pendant ces quelques années de ma courte expérience psychanalytique. Et je voudrais reprendre avec vous ma tasse de thé pour essayer de voir un petit peu où on peut aller poser quelques autres questions, peut-être moins fondamentales, mais aussi intéressantes par rapport à notre psychanalyse quotidienne. Quand quelqu'un dit « j'ai bu une tasse de thé », eh bien, on peut dire que les autres gens vont tous répondre à leur manière. C'était l'intra-psychique. Et maintenant, pour moi, c'est l'inter-psychique. Ce n'est plus intra-psychique. Et que chacun va répondre à sa manière, qui répondra à café, qui répondra à je m'en fiche, qui répondra à moi aussi j'ai du thé, et qui répondra à n'importe quoi. Chacun répond moi je. Ça, c'est une réponse très générale. Maintenant, si je dis ce matin j'ai bu une tasse de thé à un psychothérapeute, alors, je pense que la situation est tout à fait différente. Je pense, je vous dis bien que je pense, parce que je ne voudrais rien affirmer au propos des psychothérapeutes, que le psychothérapeute va répondre selon la formule « moi-je ». Il va dire « écoutez, moi, je suis votre psychothérapeute, vous m'avez demandé de l'aide. Donc, moi, j'ai un devoir à remplir, c'est de vous soigner. Autrement dit, de savoir ce qu'il faut que j'ai à dire. Donc, je ne suis pas spécialement intéressé par le fait que vous ayez bu du thé, mais j'aimerais savoir quelque chose qui me serve à moi. Moi-je. Autrement dit, par exemple, racontez-moi votre anamnèse. Ou bien, dites-moi qu'est-ce que c'est de vos symptômes. Ou bien, parlez-moi de vos angoisses. Donc, parlez-moi de ce qui, moi, m'intéresse pour pouvoir agir en fonction de ce que vous m'avez demandé, donc de vous faire de la psychothérapie. Ça, c'est un schéma très général. Maintenant, que fait le psychanalyste? Parce que le psychanalyste, ce n'est pas le psychothérapeute, justement. Eh bien, quand quelqu'un vient chez vous, s'installe sur votre divan, et dit « ce matin, j'ai bu une tasse de thé », eh bien, d'abord, vous allez vous dire « mais qu'est-ce que c'est que cet étranger qui vient me dire une chose pareille ?» Je suis censé avoir un psychanalysé qui paye un psychanalyste qui est censé être très savant et savoir des tas de choses, et voilà qui vient me dire une banalité absolument invraisemblable. Je suis saisi d'étonnement, de stupéfaction. Je trouve que c'est parfaitement étrange. Et alors, si je ne suis pas vraiment psychanalyste, il y a là un mot qui, je trouve, marque bien que la réaction que je pourrais avoir. On peut l'avoir de là, parfois. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Quelle est notre tâche quand on voit quelqu'un qui vient de dire une chose pareille? Par exemple, après les vacances, on reprend notre travail. Eh bien, on peut avoir un sentiment de xénophobie. La xénophobie, c'est la peur de l'étranger. Il y a là, soudain, un étranger qui s'introduit dans notre domaine privé, qui vient s'installer sur notre divan, et qui nous dit « moi j'ai vu une tasse de thé ce matin ». On a peur. On a peur de l'autre. Et ça, je crois que c'est absolument indispensable de sentir ces choses-là, de ne pas être le psychanalyste observateur. Mais alors, le psychanalyste qui n'est pas qu'observateur avec le psychanalyste, lui, c'est qu'il n'a pas à avoir peur, puisque c'est son métier, et il va se dire, mais pourquoi cette personne me dit ça? Et je pense que la question fondamentale, c'est pas moi-je, c'est pourquoi lui, pourquoi il me dit ça? Et en disant pourquoi, il se passe quelque chose de très curieux. C'est-à-dire que pourquoi nous marchons avec une causalité. À part il y a la surprise et puis il y a le système de causalité qui nous tranquillise. Alors, le pourquoi, eh bien, de fil en aiguille en arrière, on va trouver toujours des raisons, qui feront que tout le passé de notre analysé va se trouver comme concentré dans cette phrase. Et puis pourquoi, dans le sens de pourquoi, dans quel but, l'intention, la personnalité. Et c'est tout le futur de l'analyse qui se trouve concentré dans cette phrase. Cette phrase devient comme un représentant de l'ensemble de la problématique de l'analyse. Quelle est l'intention et d'où provient-elle? Et alors, devant un état aussi complexe et aussi extraordinaire qu'on peut ressentir comme psychanalyste devant cette phrase aussi simple, eh bien, je pense qu'il n'y a que deux réactions psychanalytiques possibles. La première, c'est « je n'ai pas de réponse, je n'ai pas assez d'éléments de réponse », autrement dit, j'écoute et j'attends. Et alors, vous savez bien que le psychanalyste qui écoute et qui attend se trouve souvent devant des choses très surprenantes, mais très significatives. Par exemple, j'écoute et j'attends. Ah, mais voilà, encore un psychanalyste silencieux. Ce psychanalyste ne dit jamais rien. Ce psychanalyste se tait. Il ne veut jamais répondre à mes questions. Je ne pose aucune question, mais il ne veut jamais répondre à mes questions, etc. On tombe dans une espèce de persécution, paranoïa, qui est très significative, finalement, de la recherche de sens, de ce qu'on cherche à trouver. On peut évidemment trouver des gens qui continuent à parler, qui se sentent écoutés, et puis qui associent et qui nous donnent de nouveaux éléments. Et si on a suffisamment d'éléments, si on est psychanalyste et qu'on a déjà connu la personne qui vient de nous dire une tasse de thé, alors l'autre solution, au lieu d'écouter, c'est « j'interprète ». Alors qu'est-ce que ça veut dire « j'interprète » C'est-à-dire « je trouve ce qui est caché derrière ce « j'ai bu une tasse de thé » parce qu'on part du principe qu'on ne traite pas le psychanalysé de menteur. Si je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez me dire? Il dit, ben, j'ai vu que t'as sauté. Alors je peux lui dire, non, vous mentez, vous voulez me dire autre chose. C'est pas vrai, mais pourtant, je suis convaincu qu'il veut me dire autre chose à travers ça. Et c'est ça qui va donner lieu à l'interprétation. Alors, un exemple rapide, par exemple, eh bien, je sais que la personne qui me dit qu'il a bu une tasse de thé, je me souviens, il m'a dit que s'il vient en psychanalyse, c'est qu'il se lève tout, depuis son enfance, il se lève du pied gauche, il est toujours de mauvaise humeur le matin, ça crée des conflits épouvantables, et par exemple, ça se répète indéfiniment. Et avec sa femme, avec sa femme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe à peu près ça. Je me souviens de ce qu'il m'a dit. Ah, ce matin, j'ai pris une tasse de thé. Ah, mais comment je t'ai dit, il ne fallait pas boire du thé, il faut boire du café, le thé, ça t'excite, etc. C'est la bagarre. Et il ne peut pas y échapper, il y a la répétition indéfinie. Alors, à ce moment-là, fort de ce souvenir, je me permets d'interpréter. Et mon interprétation sera à peu près que, en me disant ça, il a agi comme un mari qui voulait voir comment allait réagir sa femme, qui était moi. Alors ce que je découvre que sans qu'il le sache, il était à son moment un mari, et que sans que je le sache moi, j'étais femme. Donc je découvre quelque chose d'intersubjectif que je peux interpréter. Voilà, en gros, l'idée, je pense, d'une interprétation ou d'une écoute qui diffère le psychanalyste d'autres personnages scientifiques. Maintenant, je crois que j'ai parlé de mari et de femme. Alors, ça fait penser évidemment à la sexualité et à la libido qui est fondamentale. Et alors, je vais vous dire deux mots de nouveau pour continuer dans cette recherche de ce qu'est la psychanalyse sur les théories sexuelles qui... Il y en a plusieurs, mais j'en prendrai deux théories sexuelles, parce que ça donne un peu l'idée de ce que représentent les théories psychologiques de la psychanalyse. Il y a deux grandes théories sexuelles qui me viennent à l'idée. La première, c'est la théorie structurale, narcissisme, homosexualité, hétérosexualité. Je dis structurale, et non pas structurale, parce que je pense que c'est une théorie qui s'applique à tout le monde en tout temps. C'est-à-dire que c'est une structure globale dont nous représentons des substructures. C'est-à-dire que je puis être narcissique en ce moment, vous parlant, je puis être homosexuel et je puis être hétérosexuel. Alors d'abord narcissique, l'intérêt c'est qu'on lit le narcissisme à l'auto-érotisme. Alors on retrouve le tympan, on retrouve le psychosomatique qui est ancré là au début. C'est pas une théorie intrapsychique, c'est une théorie psychosomatique qui est liée à la zone érogène. Et le narcissisme, c'est, si je vous parle uniquement en fonction de moi, si donc je vous considère comme un étant, que je vous considère étant RNG, comme quelque chose dans lequel je puis me mirer, autrement dit que je vous dépersonnalise, que je vous enlève, dévitalise, que je vous transforme en un objet qui ne sert qu'à moi, dans lequel je puis m'admirer en vous parlant. Alors là, je suis narcissique et finalement, vous n'êtes qu'un objet extérieur qui ne vit pas pour soi. L'homosexualité, je trouve, pose des problèmes intéressants parce que je crois que là, on voit que ça dégage complètement la psychanalyse de la psychopathologie de l'homosexualité. La psychopathologie de l'homosexualité, c'est quelque chose de très difficile, vraiment, qui est quelque chose à quoi on se heurte en psychanalyse de manière extrêmement délicate, bien souvent, et on ne sait pas du tout. Qu'est-ce qu'on cherche avec un homosexuel? On ne sait pas si on cherche à ce qu'il devienne un bon homosexuel, à ce qu'il se transforme en hétérosexuel. C'est quelque chose de très délicat. Mais l'homosexualité dans ce type structural est intéressante en ceci que ça voudrait dire que je vous prendrai tous pour le même sexe que je suis moi. Autrement dit, nous serions tous du même sexe, ça annule les différences. Et alors, ça veut dire que si je vous dis que j'ai vu une tasse de thé, je le dirai indifféremment à vous, que vous soyez femme ou que vous soyez homme, peu importe, c'est le même message que j'envoie, et le message que je vais recevoir en retour, je le considérerai comme un message qui n'est pas lié à la différence des sexes. Alors là, on a une idée de l'homosexualité qui diffère quand même de l'homosexualité psychopathologique. Et puis, mais qui implique quand même la théorie libidinale et la sexualité. Et puis l'hétérosexualité implique que je ne peux pas échapper au fait que nous soyons des gens sexués et que si j'ai une structure en ce moment comme hétérosexuel, je dirais avec une connotation tout à fait différente, si c'est un garçon ou une fille. Ce matin, j'ai bu une tasse de thé. Peut-être que pour le garçon, ça sera pour qu'il ait une réponse sur les qualités du thé et ses vertus physico-chimiques et alimentaires. Et puis peut-être que pour la fille, c'est pour lui dire que j'ai regretté d'être seul ce matin et de boire une tasse de thé tout seul alors que j'aurais aimé qu'elle m'emporte avec moi. Etc. Il y a quelque chose de différent. Il y a l'homosexualité et l'hétérosexualité structurale qui, là, est importante, je pense, au point de vue strictement psychanalytique dans notre travail quotidien. Maintenant, la deuxième théorie sexuelle dont je voudrais dire quelques mots, c'est la théorie développementale. Donc, c'est de nouveau une théorie psychologique et pas spécifiquement psychanalytique. C'est la théorie développementale avec l'oralité, l'analité, le phallisme et la génitalité. Alors je vais être très bref, vous avez écouté des cris parce que je vais résumer, mais ça ne fait rien. L'oralité, ce qui me frappe dans l'oralité, c'est d'une part que l'objet n'est pas un objet très spécifié extérieur. L'objet dans la pulsion orale, c'est un sein, c'est quelque chose de confortable. Et puis ce sein a donc deux buts, soit il nous nourrit, c'est le besoin, soit il excite notre désir de le prendre, c'est le désir. Alors on retrouve là les deux pulsions, donc les deux énergies parallèles dont je vais parler au début. L'énergie du besoin, l'énergie du désir. Avant c'était l'énergie électrique et puis l'énergie libidinale. Alors le besoin psychosomatique, vous la connaissez dans l'oralité. Et le désir, je pense que le désir est aussi psychosomatique en ceci que l'objet étant peu précisé, l'objet, le manque d'objet, c'est un sein, que ça se passe, je verrai plus l'oralité dans ce que je dis, au niveau des sensations, des émotions, des cinq sens. Et là, il y a quelque chose de cohérent, il y a quelque chose qui est relativement, je dirais, peu conflictuel. C'est-à-dire que, par exemple, la vue de l'enfant, ça marche assez bien. Il voit un sein arrondi, qui est confortable, qui ne heurte rien, et, ou éventuellement, il voit les yeux de la mère, si la mère est bien disposée. Enfin, la vue ne pose pas un gros problème. L'ouïe, généralement, ne pose pas un gros problème. Le bruit de la déglutition, ce n'est pas extraordinaire. Le bruit du lait qui coule non plus. Le gazouillis de la mère, généralement, correspond au gazouillis de l'enfant s'ils ont l'occasion de faire des gazouillis, donc dans le sens du désir. Il y a quelque chose d'assez congruent et d'assez cohérent. Alors, j'ai vu la vue, l'odorat. En principe, l'odorat, ça ne sent pas mauvais. Quand on m'attire le sein, le lait sent pas mal. Plus tard, ça peut changer pour certaines personnes qui ont du lait. Mais il y a quelque chose aussi de congruent entre l'objet, le besoin, l'objet de la pulsion, la poussée. C'est pas franchement désagréable. Ainsi que la source. La source, ben, c'est la source qui est désagréable. En somme, le bébé a mal au ventre, et puis il a faim, et puis il braille. Mais après, il y a une satisfaction qui va avec l'objet. Le goût, apparemment, le goût de l'air, bon goût. Et puis, ce que peut donner l'objet qu'on désire pour soi, c'est assez narcissique, c'est aussi ça aurait bon goût. Quant au toucher, il n'y a pas de problème, on peut toucher. L'enfant peut tripoter le sein de sa mère, ça peut même provoquer des sensations plaisantes. Et puis, il n'y a pas d'interdiction formelle de toucher. Enfin, il y a une certaine cohérence, une certaine, je dirais, le psychosomatique est plus souligné dans l'oralité que dans l'analité, ou au contraire, c'est moins psychosomatique parce que l'objet devient beaucoup plus cohérent, beaucoup plus concret. Et dans l'analité, on ne trouve plus cette congruence, il va y avoir des conflits beaucoup plus importants. Et des conflits beaucoup plus importants, d'une part, entre l'objet de la pulsion et le sujet, et d'autre part, des conflits psychanalytiques, c'est-à-dire quelque chose d'incompréhensible ou de nouveau, amené par le psychanalyste et son esprit. En fait, l'esprit psychanalytique qui n'est pas congruent. Alors, pour la pulsion anale, si l'on reprend les sensations au niveau des cinq sens, eh bien, d'abord la vue, bébé sur son pot, la maman le regarde, lui la regarde, finalement il a fait son besoin, tout le monde applaudit. Ah, c'est beau, c'est magnifique, dit la maman, le bébé aussi, c'est superbe, j'ai fait quelque chose de magnifique, il n'y a pas de problème. Louis, c'est assez proche. On attend dans un silence religieux, et puis soudain, on entend « cloc, cloc ». Ah, c'est magnifique, ça y est, t'as réussi, et l'enfant est aux anges, le cloc, cloc, tout le monde est content. Alors évidemment, l'enfant se retourne, c'est l'odorat, ça sent bon. Comment ça sent bon? Pas du tout, ça pue, cesse de... Alors là, il y a un conflit, l'enfant comprend plus ce qui se passe avec l'objet, il y a quelque chose, un conflit entre l'objet et le sujet, qui est tout à fait curieux. Et bien sûr, le goût, alors évidemment, il va goûter cette merveille, mais pas du tout, c'est dégoûtant. Le goût est dégoûtant. Il y a une inversion totale qui surprend complètement au stade anal, on n'y comprend plus rien du tout ce coup-là. Je ne vais pas faire un dessin sur le toucher, c'est généralement défense de toucher comme il se doit. Alors, il y a là des conflits tout à fait importants qui se passent entre un objet extérieur et un sujet, qui se passaient, à mon avis, qui étaient beaucoup moins soulignés au stade oral. Et puis alors l'incongruité de psychanalyste, alors ça c'est invraisemblable, c'est que métaphoriquement, toutes les choses avaient l'air d'aller très bien. Quand métaphoriquement, on pose un gros caca, excusez-moi du terme, on pose une merde, et on peut très bien emmerder les gens en posant une merde. C'est-à-dire, on embête en faisant caca. Ça marche bien. Et voilà que le psychanalyste vient dire non. Alors là, c'est complètement hallucinant. Le psychanalyste dit l'inverse. L'enfant, pour embêter, va éviter de faire son caca, va se retenir. Et contrairement à tout ce qu'on peut imaginer comme adulte, peut-être que vous avez des souvenirs infantiles que moi je n'ai pas, en tout cas, l'idée, quand on a besoin et que les conditions se présentent et qu'on peut faire ce dont on a envie de faire, que l'idée qu'à ce moment-là, on serre les fesses et qu'on dise non, et qu'on ait mal au ventre, et qu'on se sente mal à l'aise, est quelque chose de vraiment invraisemblable. D'abord, c'est l'origine de complications sadomasochiques très curieuses, mais c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui, ou est sombré dans l'amnésie infantile la plus totale, c'est-à-dire que je ne trouve aucun plaisir à m'exercer dans ce genre de truc-là, et je ne sais pas si on peut trouver des enfants qui se réjouissent et prennent plaisir à se faire mal au ventre, à serrer les fesses, à renoncer au plaisir anal. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une idée de psychanalyste qui vraiment est une idée intéressante puisqu'elle pose un problème. Et qu'est-ce que c'est que la psychanalyse au point de vue anal? Au point de vue génital, alors tout baigne dans l'huile. C'est formidable, tout s'est localisé au niveau sexuel, psychosexuel aussi, et en principe, hétérosexuel aussi. Donc, le masculin va trouver le féminin, tout ça va s'emboîter de manière parfaite, machin de rentrer dans les choses, et tout est impeccable au point de vue digital. Malheureusement, c'est un idéal, on retombe dans la philosophie, c'est un idéal pour les physiciens, c'est les deux moitiés qui ont besoin de se retrouver et qui se retrouvent pour former un film. Mais avant ça, il y a quand même le stade phallique. Et alors là, je pense que le stade phallique, phallique castration, c'est vraiment là que se situe la psychanalyse. Ça, c'est quelque chose de typiquement psychanalytique, c'est l'invention de ce stade phallique castration. Pourquoi c'est typiquement psychanalytique? Parce que ça ne correspond à rien de psychologique. La preuve, c'est que toutes les petites filles et toutes les grandes filles et toutes les dames peuvent être parfaitement phalliques. Et tous les hommes, tous les petits garçons peuvent être parfaitement châtrés, alors que ça ne correspond à rien au point de vue psychologique. Et puis, autre argument, c'est que l'entière communauté scientifique, qu'elle soit pour ou qu'elle soit contre la psychanalyse, est tout à fait d'accord pour dire que le stade phallique, c'est une histoire de psychanalyse. C'est là que vraiment le psychanalyse...